Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
L'Intégral Sport jusqu'à 20h. Bienvenue si vous nous rejoignez. Stephen Brun qui est toujours avec nous. Et Stephen, on l'a déjà un peu dit, je t'ai pas fait un programme sur mesure, mais presque. Pour l'heure qui arrive, on va parler de tennis puisque on commence cette tournée américaine. Dans un mois, ce sera l'US Open et on a une Française qui défie actuellement la numéro 1 mondiale, Iga Świątek. Caroline Garcia est sur les courts. Elle a gagné le premier set 6-1, perdu le deuxième 6-1. On est dans la troisième manche pour l'instant. Break d'avance pour Caroline Garcia, 3-2. Eric Salio sera dans un petit quart d'heure pour nous parler de Caroline Garcia, mais aussi de nos Français, dont un certain Adrian Manarino. À 19h30, Edwy Jackson, ancien arrière international, sera avec nous. On parlera de l'Eurobasket qui débute dans un mois en Allemagne. Les Bleus sont annoncés favoris. Ils démarrent aujourd'hui leur prépa avec Evan Fournier et Rudy Gobert en tête de gondole. Du cyclisme avec la 6e étape du Tour de France Femmes qui est arrivée à Rosheim en Alsace. Marianne Vos, la maillot jaune, s'est imposée au sprint. Et demain, chez les hommes, il y a une classique, la classique de San Sebastian, Saint-Jonas, Vingegaard, mais avec Tadej Pogacar. Mais tout de suite, place au rugby avec demain un jubilé de trois grandes nom du rugby français. Ils ont débuté professionnellement ensemble à Montpellier dans les années 2000. Ils ont avalé des kilomètres sur ce stade sabaté, là où ils se retrouveront demain avec du très beau monde. Je vous parle de la génération 1986. François Trinduc, Louis Picamol et Fulgence Ouédraogo qui est avec nous. Bonsoir Fulgence.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors demain, de 15h à 19h, c'est le jubilé, un jubilé à 3. Et vous avez vu les choses en grand, 4000 personnes, 3 équipes. Est-ce que vous pouviez rêver mieux comme jubilé?
Non, vraiment, on ne pouvait pas rêver mieux. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur de faire ce jubilé à Sabaté, le stade qui a connu nos débuts. Donc c'était vraiment quelque chose de particulier. Et c'était très symbolique pour nous. On voulait boucler la boucle. Et le public a répondu en masse. Et même là, dernièrement, on a beaucoup de demandes, mais on est obligé de refuser, malheureusement, parce que on pourra pas faire plus de 4000 personnes ce jour-là.
Là, la veille de cet événement, c'est plus excitation ou émotion?
Un mélange des deux. On était encore avec Louis à Sabaté, là, il y a quelques minutes. Et vraiment, on se dit, on va mettre 4000 personnes à nouveau dans ce stade. C'est quelque chose qui nous a donné beaucoup d'émotions. Et on est très excités à l'idée de vivre cette journée, ce moment-là, et de partager avec tous les gens.
Donc, ça va se dérouler de 15h à 19h. Et chacun de vous, toi Fulgence, François et Louis, vous avez composé vos équipes, vous allez vous affronter. Comment ça va se passer?
Bon, je préviens tout le monde, ce sera peut-être pas le meilleur des spectacles, mais on a essayé de faire 3 équipes avec les joueurs qu'on a pris en amitié, qui nous ont marqué dans nos carrières respectives. Il y a 30 joueurs par équipe à peu près, donc ça fait énormément de joueurs. On a fait des petites mi-temps parce qu'il y a des joueurs qui ont arrêté depuis un moment. Donc on veut pas les fatiguer, on veut pas qu'il y ait de blessés, c'est pas le but de la journée. Donc on a fait des mi-temps de 30 minutes et on va faire 2 matchs chaque équipe. Voilà.
Et justement, tu parlais des anciens, il y en a qui sont entretenus un peu pour faire honneur sur le terrain
On leur a mis la pression, mais je pense que malgré tout, ils vont être à la rue. Je pense notamment à Sébastien Kuzmic. On va peut-être le faire changer de poste et on va le mettre à la pile ou en seconde ligne. Donc voilà. Il y a peut-être des joueurs qui vont changer de poste au vu de leur physique.
En tout cas, Fulgence, ils seront tous bons en troisième mi-temps, ça tu peux être sûr.
Ça, par contre, là, il y aura du spectacle en troisième mi-temps. Là, je garantis le spectacle.
Dis-moi, Fulgence, tu termines ta carrière sur un titre de champion de France avec Montpellier. J'imagine que c'est une énorme satisfaction pour toi, non?
Oui, c'était vraiment quelque chose de magnifique pour moi, d'énorme, un peu inespéré. J'ai couru ces dernières années derrière et je m'étais presque fait à l'idée que j'allais plus jamais le toucher. Et là, cette année, la dernière occasion que j'ai, c'est la bonne. Donc on ne pouvait pas rêver mieux. C'est vraiment extraordinaire comme fin. Vraiment, j'ai eu du mal à réaliser. Et depuis, on est toujours sur un petit nuage. Donc ouais, c'est une chose extraordinaire pour moi, mais aussi pour le club, pour la ville. Donc il y a beaucoup d'excitation, beaucoup d'émotion et de plaisir à avoir fait ce parcours-là et avoir pu ramener le bouclier à Montpellier.
Vous avez commencé.
Il sera au jubilé.
vous avez commencé avec François Trinduc, avec Louis Capone au Pic Saint-Loup. Vous aviez quoi, 6-7 ans, c'est ça?
Je vais corriger un peu. Louis, il était à Montpellier. On a joué contre lui. On a commencé à jouer contre lui quand on avait 12-13 ans. Et moi, je suis arrivé au Pic Saint-Loup à 6 ans. François, il jouait déjà depuis 2 ans. Nous, du coup, on s'est connus un peu avant Louis. Après, on a joué des années et des années contre Louis. Et quand on arrive à Montpellier, on a rejoint son équipe. Et voilà, on a tous joué tous les trois.
Louis, c'était un peu l'ennemi alors à l'époque.
À l'époque, c'était l'ennemi. Il fallait s'en méfier parce qu'il était déjà dangereux.
Est-ce que l'idée de terminer déjà en même temps la même saison ensemble, c'était quelque chose que vous aviez déjà évoqué? Et de faire le jubilé en même temps, ou c'est finalement les circonstances des carrières de chacun qui l'ont fait?
Je pense que le Covid, pour beaucoup, aucun de nous voulait terminer sur une année avec un stade vide, un peu tronqué. Donc on s'est tous donné l'opportunité de jouer une année de plus. La fin, on s'est pas concerté, rien du tout. Mais par contre, François et Louis sont venus vers moi, ils m'ont dit ce serait pas génial qu'on fasse un jubilé tous les trois ensemble. Moi, à la base, j'avais même pas eu l'idée de faire un jubilé à la fin de ma carrière. Donc oui, l'idée m'a plu et je rejoins l'aventure.
Fulgence Ouédraogo est notre invité dans l'Intégral Sport avec ce jubilé commun demain à Montpellier avec François Trinduc et également Louis Picamol de 15h à 19h, Stéphane. Ouais,
Fulgence, donc j'ai vu que tu avais été diplômé d'une école de commerce, tu avais repris tes études pendant ta carrière, donc félicitations parce que c'est toujours très très compliqué de pouvoir faire les deux. Et j'ai vu que tu allais bosser au sein du MHR dans l'événementiel. En quoi ça va consister exactement?
C'est du relationnel et de l'image. C'est vraiment remettre du lien, essayer de travailler sur l'image du club. Je serai une sorte d'ambassadeur, donc je vais toucher un peu à beaucoup d'aspects du club, mais pas forcément le sportif.
Tu mettras Philippe Saint-Trinduc en costume pour les grandes affiches dans les rues de la ville de Montpellier ou pas?
C'est ça, exactement.
Sachant que tu as aussi l'événementiel et quelque chose qui t'attire et professionnellement, et tu as déjà commencé aussi, c'est un aspect pour ta retraite sportive, voilà, de développer plein de compétences autour de ça.
Oui, j'essaie, c'est quelque chose qui me plaît, vers lequel je me dirige. Donc j'essaie de me familiariser avec tout ce monde-là.
Fulgence, pour terminer, on va parler un peu de sport et du 15 de France. La Coupe du Monde arrive bientôt chez nous. Il va falloir que tu te mouilles. Est-ce qu'on va être champion du monde pour la première fois de notre histoire?
Franchement, on n'a jamais eu autant de chances d'être champion du monde qu'avec cette équipe-là et ce groupe-là, à mon avis. Je dirais, moi, là, le plus dur pour l'équipe de France, c'est, enfin, ce qui va être important, c'est d'amener ce groupe-là avec les joueurs en forme à la Coupe du Monde. C'est-à-dire que nous, le top 14, c'est un championnat qui est très, très usant, très fatigant, où il y a des risques de blessures. Et si on arrive à passer une année où les joueurs sont peut-être un peu plus ménagés, où on arrive à les amener à cette Coupe du Monde à 100% de leur capacité, bien sûr que l'équipe de France a une chance d'être championne du monde.
Le jubilé avec François Trinduc, Louis Picamol, Fulgence Ouédraogo demain à Montpellier, 4000 personnes. Les bénéfices, en tout cas la recette, est reversée à une association, l'association Commun Rock, association d'émancipation et d'éducation des enfants au Vietnam. Juste avant de se quitter, Fulgence, un mot des équipes. Alors dans l'équipe Trinduc, on retrouve du Louis Carbonel, Antoine Gibert, Romain Taoufifenoa, Dimitri Zarzewski, Guillaume Guirado, Michael Guigou aussi. Pourtant, c'est pas forcément Mika Guigou. Il adore le rugby, mais un ailier.
Il va s'en sortir avec
les lié au hand, les lié au rugby, ça peut passer.
Ouais, hein. Il a les mains en or, Michael.
Il a des bonnes mains et il a des bons appuis, donc ça peut être pas mal.
Par contre, il n'y a pas de Moscato et de Denis Charvet, je suis un peu déçu.
On ne voulait pas vexer Enzo Forletta.
Alors, tu sais, Enzo, qui est d'ailleurs, je crois, dans deux équipes, celle de.
Il est toujours alcoolisé ou pas?
Il sera là, mais il ne pourra pas jouer, malheureusement. Il ne s'est toujours pas remis.
Toujours un peu blessé.
Mais il sera là pour l'animation.
Et pour terminer le casting, dans l'équipe Picamol, il y a Josefa Tekori, Jefferson Poirot, Mathieu Jalibert, Yannick Josion, Vincent Clerc, Cédric Emmons, c'est pas mal de Toulousains quand même. Hein. On voit pour Louis qui a joué évidemment. Et toi Fulgence, il y a du Yuan Huger, Anthony Boutier, Damien Chouli aussi. Dis-nous un petit peu mot de ton équipe, comment t'as choisi des joueurs avec qui le feeling est passé durant ta carrière, des rencontres.
Exactement, c'est un mélange un peu de tout, des joueurs que j'ai côtoyés durant ma carrière, beaucoup de Montpellierains essentiellement qui me ressemblent, donc Après, des joueurs que j'ai côtoyés en équipe de France ou chez les jeunes, il y a aussi des jeunes joueurs qui vont jouer contre leur père. Ça aussi, ça, c'est quelque chose d'important et à souligner. Donc voilà, la nouvelle génération qui sera présente. Donc voilà, c'est un mix de tout ça, un peu de ma carrière, de mon vécu, des rencontres que j'ai pu faire et des affinités que j'ai pu tisser.
Il a eu raison d'inviter quelques Toulousains, il fallait bien les consoler après cette saison frustrante.
Ah, mais Louis, je pense qu'il a fait une équipe qui le ressemble, taille-poids, et il a pris tous les plus solides, donc voilà, c'est ça.
Alors que l'équipe Fulgence, il y a un peu de tout, on veut aussi un peu jouer avec les trois quarts derrière, un bon pack.
C'est plus véloce, ça se déplace plus.
Et du coup, tu vas aussi jouer, tu vas coacher, comment, voilà, dans...
Non, on va jouer. Après, comme je le disais, il ne faut pas s'attendre à un match de top 14 où ça va taper dur. Voilà, on va ménager un peu les joueurs qui vont reprendre la saison, les joueurs qui ont arrêté depuis longtemps. Donc, on va essayer de retrouver un format assez sympa et assez plaisant pour le public.
Et le public a répondu présent, 4000 personnes. Et tu le disais, vous refusez du monde parce que, évidemment, le stade Sabaté, qui est un stade de tes débuts en pro, hein, au cœur de Montpellier, avant que ça soit le nouveau stade construit dans les années 2000, hein, 2010.
Exactement, 2007.
Il est là, Fulgence, il connaît
oui.
Par cœur.
Ah, c'est son club, hein.
Oui.
Le MHR, MHRC avant aussi, je crois, c'était ça le nom.
C'est ça, exactement.
Donc, merci beaucoup, Fulgence. Bravo, évidemment, pour ta carrière. Et on souhaite un magnifique jubilé avec François Trinduc et Louis Picamol demain au stade Sabaté à Montpellier, 15h-19h. Merci beaucoup, Fulgence.
Merci Fulgence. Ciao, ciao.
Moment sympa, Stephen, parce que Fulgence, c'est un des visages depuis 15 ans de notre rugby, de notre top 14.
Oui, ça a été le visage aussi de notre 15 de France, et c'est surtout le visage d'un seul club. Et ça, aujourd'hui, ça se fait de plus en plus rare. Hein. Le MHR toute sa vie, le PIC Saint-Loup, puis le MHR toute sa vie pour Fulgence Pedrago, qui est aujourd'hui une légende du rugby montpelliérain. Super mec, fantastique joueur, et puis qui s'en va, comme on l'a dit, sur un titre de champion de France. Donc, bonne continuation à lui, mais ça m'a l'air d'être un sont plutôt bien connectés. J'ai pas d'inquiétude sur la précarrière pour Fulgence Ouedraogo.
39 sélections avec le 15 de France pour Fulgence Ouedraogo. 19h15 dans l'Intégral Sport, on parle tennis dans moins de 2 minutes avec peut-être un exploit, oui, pour Caroline Garcia qui va peut-être battre la numéro 1 mondiale Iga Świątek. Et surtout, ce 29 juillet, on est à un mois jour pour jour du début de l'US Open.
RMC Intégral Sport,
Arnaud Valadon.
19h17, on est encore ensemble pour un peu moins de 45 minutes jusqu'à 20h dans l'Intégral Sport. Après, l'after prendra le relais autour de Nicolas Jamin dans un petit quart d'heure. Edwin Jackson, arrière, ancien international français, basketteur, sera avec nous pour parler de l'Euro, pour parler aussi de son actualité. Lui qui joue désormais en Espagne depuis 2 saisons et demie. Edwin Jackson sera avec nous. On aura également un autre invité. On va parler cyclisme à 19h50. Franck Thor, qui est le directeur de la course du Tour de France femmes qui entame son week-end décisif. Elles sont en Alsace, les coureuses cyclistes, avec notamment 2 étapes de montagne samedi et dimanche. Mais tout de suite, place au tennis. Et qui dit tennis sur l'antenne d'RMC dit un peu Stephen Brun, c'est vrai, un peu beaucoup aussi.
J'adore ce sport. C'est mon sport de prédilection. J'ai commencé par ça, Arnaud, avant de basculer sur le basket. Mais si, tu sais, on imagine tous ça dans une vie. Si on peut revenir en arrière, si je pouvais revenir en arrière, je continuerais dans le tennis. Pas de carrière de basket.
Et le tennis sur RMC dit surtout Eric Salio. Salut Eric.
Salut à tous, salut à vous deux.
Salut Eric.
C'est vrai que là, on parlait de l'amour du tennis de Stephen. Il a un bon gabarit, bon serveur, hein, quand on le voit, hein, notre ami Stephen.
Non,
Eric.
Non, mais je suis content qu'il ait rejoint RMC il y a seulement quelques années, parce que je pense qu'il m'aurait éjecté, quoi. Il n'y a rien à dire. Il connaît très très bien ce sport. Il joue très très bien. Il aurait pu être champion de France des vétérans. Malheureusement, ça, il a écopé d'une suspension parce qu'il se comporte mal sur un court. Mais sinon,
c'est le Kyrgios.
Tu sais que je me disais, oh, il est quand même gentil, Eric, mais il a amené ça pour me mettre un petit tac à la gorge pour finir son petit laïus.
T'en es où alors? T'as pris combien de sursis?
J'ai pris un mois de sursis.
Ah, qu'est-ce que t'as
bien,
fait?
Tu t'en tires bien.
J'ai eu une petite dispute avec une juge arbitre sur la finale des championnats de France de Paris. Voilà, ça arrive, un désaccord de point de vue.
C'est quelle surface?
Terre battue, moi je suis un joueur de terre battue.
Donc ça se voit la trace. Non, c'était pas sur
ça? C'était pas sur une trace, hein, t'inquiète pas. C'était pas sur une trace. Moi je suis un joueur de terre battue, moi, parce que j'ai une main exceptionnelle. J'ai une main exceptionnelle, j'ai une
touche. Non, des grands gabarits comme toi, c'est pas forcément.
Et ouais, justement, ne juge pas qu'au gabarit, Arnaud.
Bon, alors parlons des grands pros, même si tu aurais pu épouser ce rêve dans une autre vie, tu viens de le dire, mais on a Caroline Garcia, on attend de voir parce que c'est chaud. Eric Salio, elle est face à Iga Świątek en quart de finale à Varsovie. Et ben, notre Caroline Garcia, elle tient la dragée haute à la numéro 1 mondiale.
Ah, elle fait un super match. Il y a quelques minutes, elle a même servi pour le gain de la rencontre. Malheureusement, la machine s'est grippée alors qu'elle était à 5-3, 30-0. Donc Iga Świątek est revenue à 5-4. Elle sert pour revenir à 5 partout. Mais en tout cas, Caro Garcia nous fait plaisir parce que elle a un style de jeu extrêmement agressif. Je crois qu'elle est à plus de 30 coups gagnants face à une fille comme Świątek. C'est vraiment une performance assez exceptionnelle. Donc on va peut-être suivre la fin du match pendant cette petite page tennis, mais ça ferait du bien pour le tennis français, même si on a eu la victoire d'Alizé Cornet contre cette même Iga Świątek à Wimbledon. Si Świątek perd une nouvelle fois contre une Française, là, ça va commencer à devenir inquiétant pour elle, mais elle est à 30, elle est à 2 points du match.
Mais dis-moi, Eric, j'ai l'impression que Caroline Garcia, on retrouve celle qui a été quatrième mondiale, il me semble, au niveau en termes de jeu, d'intensité et d'efficacité.
Tout à fait d'accord avec toi, et il a fallu que le puzzle se remette en place. Elle a eu quand même un gros souci au pied au printemps. Elle a subi une petite intervention. Alors c'était pas une opération, mais un petit traitement. Et elle est revenue en pleine forme juste avant Wimbledon, puisque souvenez-vous, elle avait remporté un tournoi sur gazon en Allemagne. Malheureusement, l'enchaînement avec Wimbledon est arrivé, était trop dur pour elle. Elle avait des pépins physiques un peu partout, donc elle a pas pu aller plus loin que les huitièmes. Mais elle avait, franchement, d'ailleurs, on en avait fait un débat dans le.
T'as gagné.
Une après-midi, ouais, moi je pensais qu'elle avait tout pour gagner, elle avait tout pour gagner ce tournoi, et il lui a manqué un peu de physique, mais je suis sûr que à l'US Open elle sera très 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 dangereuse.
Et puis on la sent déjà par ce titre juste avant Wimbledon à Badenbourg en Allemagne, on la sent libérée de quelque chose, d'un poids ou je ne sais quoi, Eric. Hein.
Bah, elle a retrouvé la santé surtout, parce que c'est vrai qu'elle ne le disait pas, mais elle luttait contre une blessure au niveau de la voûte plantaire, ce qui est extrêmement douloureux. Et d'ailleurs, on l'avait quittée en larmes à Miami après un abandon, et là, elle a pris une décision radicale. On arrête, ça ne sert plus à rien de jouer, quoi. Il fallait faire des soins, donc ça a pris du temps. On pensait même qu'elle raterait Roland-Garros, elle était revenue juste à temps pour Roland. Et là, la machine est de nouveau magnifique. Elle a un nouveau coach qui a la même vision qu'elle, à savoir on frappe très fort, on est très agressif en deuxième balle de service. Et on le voit durant ce match, Świątek a beaucoup de difficultés à trouver les bonnes zones au service. Elle est un peu étouffée par la Lyonnaise. Alors c'est un jeu à risque, Stephen, mais...
Ah oui, mais...
Quand ça marche, c'est magnifique.
Et là, il n'y a pas l'excuse de Iga Świątek, gazon, c'est pas sa meilleure surface.
Non, en plus, c'est à Varsovie, elle est chez elle.
Ah oui.
Le tournoi a été fabriqué pour elle. D'ailleurs, on voit bien dans les tribunes, les gens sont un peu stupéfaits par le scénario du match. Mais bon, pour l'instant, ça tient pour Caro Garcia. Elle mène 5-4, je le rappelle, dans cette troisième manche, mais avantage Świątek. Qui est au service.
Dans un mois, jour pour jour, 29 juillet, c'est le début de l'US Open à New York. Eric, et évidemment, on parle beaucoup de Novak Djokovic parce que il ne peut pas entrer sur le territoire américain. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de prises de parole. Je sais qu'il y a une lettre qui a été signée, une pétition par 40 000 personnes pour dire, faites un effort. On a même vu Goran Ivanišević prendre la parole. J'ai sa phrase. Pendant 2 ans et demi, nous avons été terrorisés. On nous a mis sur le mur de la honte, en référence notamment à ce qui s'est passé à l'Open d'Australie. On sent qu'il y a quand même pas mal de prise de parole pour dire, allez, faites un geste pour le Serbe.
Ouais, mais le problème, c'est que la fédération américaine a calé son règlement sur la position du gouvernement américain. Donc pour l'instant, il n'y a aucune issue. Il faudrait presque une exemption venue de tout là-haut, à savoir du président Biden, pourquoi pas. Et ça peut être, à mon avis, la seule issue. Mais c'est vrai que c'est très curieux, ce règlement, parce que prenez l'exemple de Tennis Sandgren, qui est un joueur américain. Bon, il n'est pas aussi connu, mais on sait qu'il a pas été vacciné, il le reconnaît, il le dit. Hein. Lui pourra jouer l'US Open. Il pourra jouer l'US Open parce qu'il est américain. Donc où est la logique là-dedans? Est-ce que Novak Djokovic représente vraiment un danger pour ses partenaires? Je suis pas sûr. Donc c'est un vrai débat. Maintenant, vous allez me dire, c'est de sa faute. Il a qu'à se faire vacciner. Mais bon, on va pas revenir sur ses positions. Il a des arguments. Il a foi en son. Oui, il a des convictions très profondes. Qu'il faut respecter, mais à Wimbledon, il était très serein sur la station, et il dit, si je ne suis pas à l'US, tant pis, c'est comme ça, mais sachez quand même que, là, il est en vacances au Monténégro,
il s'entraîne
quand même.
Hein. S'entraîne, le petit filou, hein. Il a trouvé un petit courant dur, il s'est dit, je vais quand même m'entraîner au cas où. Hein. T'as vu qu'il y a un gros promoteur du tennis serbe qui a envoyé une lettre à Joe Biden et tout.
Ben non, mais il faut prendre. Je vous coupe parce que la victoire est là. Caroline Garcia vient de battre la numéro 1 mondiale,
Iga Świątek,
à Varsovie en 3-7.
À domicile, chez Świątek.
6-4. Et c'est une super victoire. Je crois que c'est la première fois qu'elle bat une numéro 1 mondiale. Donc cette victoire, elle compte énormément pour elle. Elle va évidemment grimper au classement et je pense qu'elle pourrait être tête de série à l'US Open. Mais surtout, elle peut aller chercher un deuxième titre en quelques mois après celui de Badenbourg. C'est vraiment le rayon de soleil du tennis français actuellement.
Il y a stocké leur tableau.
Caroline Garcia. Alors, faut que je regarde le tableau, mais bon, il a été dépouillé.
Alors, elle va jouer Paolini, l'italienne.
Ah, l'italienne.
Et il y a d'une lucky loser, Bendel et la roumaine Bogdan. C'est pas mal, hein. Je pense que là, elle vient s'ouvrir un.
C'est easy money, ça, pour Caro.
Non, mais en tout cas, c'est une super victoire. Je veux pas dire qu'on la sentait venir, mais le niveau de jeu était là depuis quelques mois. Badenbourg, c'était très bon. Je vous l'ai dit, Wimbledon, il a pas manqué grand chose. Mais là, elle est en train de prendre une confiance folle, puis surtout avec un style de jeu ultra agressif, tout ce que détestent les filles. C'est vraiment génial pour elle. Donc, Caroline Garcia en demi-finale à Varsovie. Victoire sur la numéro 1 mondiale qui commence à
piquer
un petit peu, je trouve.
Ça va être intéressant.
Deuxième défaite en quoi? En 37 ou 38 matchs, non, pour Iga Świątek, non, c'est ça?
Et deuxième défaite face à une Française.
Exactement.
Merci Eric.
Elle aime plus jouer les Françaises.
À très vite sur RMC, évidemment, pour parler tennis, mais pas que. Évidemment, on te retrouve aussi dans les paris. À très vite, Eric Salio. Nous, on revient à 19h25 dans l'Intégral Sport pour parler basket. Et là, Stephen, évidemment, se frotte les mains. C'est presque basket time réuni. À tout de suite dans l'Intégral Sport.
RMC, Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
19h30 sur RMC, la dernière demi-heure de l'Intégral Sport. Tout de suite du basket avec l'équipe de France masculine qui débute aujourd'hui sa préparation pour l'Euro en Allemagne début septembre. Les 17 bleus convoqués par Vincent Collet passent aujourd'hui des tests médicaux à l'INSEP. Dans la liste, pas de Nicolas Batum ou Nando Docolo qui font la passe, mais Rudy Gobert et Evan Fournier sont là, tout comme un certain Victor Wembanyama. Pour parler de cet Euro mais aussi de son actu, on reçoit celui qui a été international à 54 reprise, Edwin Jackson. Salut Edwin.
Salut,
ça va, Edwin.
On est content de t'avoir arrière d'Estudiantes en Espagne à Madrid. D'ailleurs Edwin, un petit peu des nouvelles, c'est vrai qu'on t'avait quitté sur une grosse blessure à la jambe droite en avril.
Ouais, grosse blessure, c'était surtout la blessure que j'avais eue au poignet. La grosse blessure en avril, c'était pas vraiment une grosse blessure, c'est juste que c'était un moment inopportun de la saison parce que j'ai pas pu la finir, mais là je suis déjà remis de cette blessure et prêt à commencer la saison prochaine. Donc ça c'est, mais c'est surtout sur les deux dernières saisons, ma blessure au poignet où j'ai eu une première blessure et une rechute qui m'ont éloigné des parquets. Mais là tout va mieux, donc c'est porteur d'espoir.
Et une nouvelle saison malheureusement en deuxième division puisque ton club de Estudiantes a perdu en finale contre le Gironde de Marc Gasol. Il y a cette petite frustration de ta part de dire si je m'étais pas blessé, peut-être qu'on aurait pu être en Ligue ACB la saison prochaine.
Ouais, clairement. Après, c'est vrai que moi je reste pas, donc c'est pas. Je pars des Estudiantes, donc voilà, c'est.
Mais tu vas
de
où
pas avoir de, bah, pour l'instant, j'ai pas de contrat, donc pour l'instant, je suis sur le marché. Donc j'ai pas re-signé à Estudiantes parce que mon but c'était pas de rester une deuxième année en deuxième division quelque part, c'était de retourner sur un championnat plus compétitif. Donc je vais attendre d'avoir une opportunité et faire ça parce que c'était un projet sur 2 ans, c'était viser la montée directement, mais c'était pas pour m'inscrire dans le projet du Estudiantes si ça marchait pas sur la première année. Donc voilà, j'ai fait le choix de partir pour l'année prochaine.
Tu vas avoir 33 ans bientôt, le 18 septembre. Tu dirais que là, ce que tu as eu au poignet est vraiment derrière toi. Tu sens que ton corps t'envoie encore des signaux positifs.
Je te dis que son corps, il en envoie des signaux positifs avec les workouts qu'il fait le matin. On n'est pas sur du six-pack, on est sur du 12-pack, hein, je te le dis.
Alors, non, physiquement, justement, avec ces blessures, justement, j'ai fait extrêmement attention et mis toutes les chances de mon côté. Alors, c'est vrai que quand on est éloigné longtemps des parquets, c'est vrai qu'il y a toujours une peur. Mais pour avoir joué 5-5, fait m'entraîner tous les jours, les blessures elles sont vraiment derrière moi et j'ai hâte de mon corps je le sens super bien et j'ai hâte de retourner dans une équipe où je peux prendre du plaisir.
Alors, tu as un avis aiguisé, évidemment, sur le basket français, basket européen, la NBA. Il y a 7 euros en Allemagne qui va débuter au début septembre. La France est dans la poule du pays hôte, l'Allemagne. D'ailleurs, ce sera le premier match à 20h30 le 1er septembre. La Lituanie, la Hongrie, la Bosnie, la Slovénie de Luka Doncic, tenante du titre, seront au programme des Bleus. La France est-elle favorite de l'Euro? C'est la question que je vous pose, messieurs Edwin et Stephen.
Moi, oui, clairement. Même si les absences de Nando et de Nicolas Batum peuvent être un petit peu préjudiciables, mais je reste persuadé que malgré tout, quand tu es vice-champion olympique, que ces deux absences-là, elles peuvent être palliées, à mon sens, par des garçons qui ont progressé cette saison. Donc, bon, clairement, la France favorite pour être championne d'Europe et pour être championne d'Europe une deuxième fois après 2013, il me semble.
Edwin.
Alors oui, moi j'aime pas forcément ce terme de favori, parce que quand tu te rapproches du très très haut niveau, enfin du plus haut niveau mondial, l'écart entre les équipes, enfin voilà, ça se joue à des détails. Donc quand je vois ce que peut éliminer la Serbie éventuellement, ça peut aussi potentiellement être une très belle équipe. Après à voir, mais c'est clair que l'équipe de France va à cette compétition pour la gagner. C'est clair que maintenant, dans toutes les compétitions sur lesquels on est avec l'équipe de France, c'est clair que c'est que des compétitions qu'on aborde pour les gagner. Ça c'est clair.
Après, je rejoins Edwin sur on est favori, mais il y a d'autres équipes qui peuvent se prétendre favoris aussi, parce que
commençons par la phase de poule. Il y a l'Allemagne qui a peut-être pas le vécu collectif, mais qui arrive armée avec les frères Wagner, Daniel Stey, Dennis Schröder.
Ouais, c'est pas cadeau à domicile. Voilà. T'as les Slovènes, on rappelle.
Qui ont peut-être le vécu collectif, allez, similaire, parce que la France arrive. Alors c'est vrai qu'il y a pas Nando, il y a pas Nico, mais il y a quand même des joueurs. Une grande partie des 12 médaillés d'argent à Tokyo seront là. Donc il y a quand même la continuité Vincent Collet. Peut-être les Slovènes se rapprochent le plus dans cette identité qui bouge pas ces dernières années, les mêmes joueurs.
Ouais, pour moi on a peut-être un peu plus de profondeur devant que les Slovènes, qui sont, alors ils ont des bons joueurs autour de Luka Doncic, mais qui sont quand même ultra dépendants de Luka Doncic, sauf si Goran Dragic fait son comeback pour l'Euro.
Jouer en fenêtre de qualif en juin. Ouais.
Exactement. Après t'as trop d'équipes. Moi quand je vois la Grèce, quand t'as Antetokounmpo, Kalates, Lucas, Papayanis et Tyler Dorsey, les Slovènes, les Serbes, l'Espagnol, l'Allemagne.
Je pense que vraiment maintenant, tu vois toutes les équipes. En plus, non seulement il y a beaucoup d'autres équipes qui ont un collectif, mais c'est surtout que maintenant le niveau des meilleurs joueurs dans les équipes est beaucoup plus fort qu'avant. T'as une star, un mec qui peut t'implanter. Moi, je me rappelle, on avait joué les Philippines et
André Blatch,
niveau d'ensemble. Et André Blatch, voilà, faut l'arrêter. Tu le laisses jouer tout le truc, il peut t'en mettre 40. Un jour, il prend feu. Donc c'est vrai que maintenant. Tu tombes sur l'Allemagne, Dennis Schröder il met dedans, mais t'arrives pas à l'arrêter en pénétration.
On se souvient en 2017, hein, puisqu'on est sorti par l'Allemagne et Dennis Schröder à l'Euro.
Et donc voilà, attention aux surprises, mais c'est vrai que sur le papier, l'équipe qu'on gagne, qu'on garde, la continuité, je pense que clairement on fait partie des favoris.
Edwin, un petit mot sur les Grecs qui ont fait le buzz un petit peu avec les quatre frères Antetokounmpo. Moi, j'ai quand même l'impression que Yanis et Thanasis sont des joueurs de haut niveau, mais j'ai quand même l'impression que les deux autres, s'il n'y a pas Yanis dans l'équipe, je ne suis pas sûr qu'ils...
Kostas, déjà, avec Lasvel, on avait vu...
T'es pas d'accord que Yanis a quand même une belle influence sur le recrutement de ses frangins dans l'équipe ou pas?
Alors, pour être honnête, je peux pas, j'ai pas vu l'équipe grecque. Je ne sais pas... Ça dépend, ils prennent la place de qui, tu vois. J'ai pas vu, c'est vrai que j'ai pas vu le roster, mais bon, c'est vrai que c'est vrai que les deux autres, ils ont pas fait, quand tu vois le palmarès des joueurs grecs sur la sélection, c'est vrai qu'ils sont, voilà, ça n'a rien à voir, surtout le dernier, Alex, il a, enfin, sur le milieu professionnel, il a montré très peu de choses.
Tiens, joue les 12 Français. Edwin Jackson est avec nous. On parle de l'Eurobasket dans l'Intégral Sport avec Stephen Brun.
Tu veux qu'on quête des joueurs déjà, c'est ça?
Mais est-ce qu'on a déjà une
12
idée un petit peu?
C'est ce que j'allais dire. Moi, je ne vais pas me mouiller. Hein.
Mais je vais vous rappeler les 17 convoqués.
Sur la liste. Hein.
Les 17 convoqués actuellement à l'INSEP. Pour les postes 1 et 2, on a Andrew Albici, Isaiah Cordinier, Evan Fournier, Thomas Hurtel, Théo Malédon, Franck Nilikina et Eli Okobo, ainsi que Terry Tarpey. Pour les postes 3, où il n'y aura pas Nicolas Batum. On retrouve du Timothée Louaou-Cabarro, Gershon Yabusele ou encore William Howard, champion avec la Suède.
Gershon poste 4.
Avec Amat Mbaye. Et puis on peut rajouter, pour les intérieurs, on a évidemment Rudy Gobert, Mustapha Fall, Vincent Poirier qui était au jeu. Mame Jeite qui a fait une excellente saison, tout comme Isaiah Cordinier à Bologne. Et évidemment, la licorne, Victor Wembanyama. C'est son surnom, évidemment, lui qu'on promet au choix numéro 1 de la draft 2023. Quel est un peu ton regard sur Victor, Edwin? Tu vois un peu comme tout le monde, un peu ébahi. À chaque fois, il fait des highlights qu'on le voit. On attend ses sorties. Est-ce qu'on met beaucoup, beaucoup de pression sur lui? Parce qu'il y a quand même une attente outre-Atlantique assez incroyable et du jamais vu pour un joueur français.
Hein. Ah, mais à juste titre. L'attente qui est placée en lui, elle est pas. Enfin voilà, on n'a jamais vu peut-être de l'histoire du basket mondial un joueur aussi grand, enfin avec des mensurations aussi aussi impressionnantes, bouger aussi bien et avoir un toucher aussi bon que le sien. Donc forcément, ça fait rêver. Les comparaisons, son morphotype, il peut être comparé à celui de KD. Forcément que tout le monde va être excité. Moi, le premier, quand je le vois jouer, je me dis vraiment que ça peut être quelqu'un de qui peut dominer le basket mondial. Après, c'est toujours la continuité, le travail, une partie de chance. Enfin voilà, il est quand même très jeune et s'il gère bien la pression, oui, c'est sûr qu'il ira très loin. Et après, c'est tout ce que je lui souhaite, ça c'est sûr. Après, il va être bien encadré avec
Vincent Collet à Levallois,
qui va garder la tête sur les pieds sur terre. Donc voilà, c'est bien. Et il continue à faire son bout de chemin. Il prend ses propres décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que les gens peuvent en penser. Voilà. Donc j'espère le voir avoir une progression constante et que
pas de blessure surtout.
Pas de blessure et tout éclater en NBA, ouais, c'est clair.
Dans les 12, c'est possible ou pas, Victor Wembanyama, pour cette
Euro? Je pense que là, c'est une prise de température pour Victor Wembanyama.
C'est un peu tôt, surtout quand on voit le niveau des autres. C'est des joueurs d'Euroleague confirmés ou des joueurs déjà très confirmés sur le circuit. Ça serait dur de justifier si jamais de prendre Victor, si jamais il performe pas et que t'as pas pris un Vincent Poirier, un Mustapha Fall ou un Amat Mbaye ou Gershon pour Victor, c'est compliqué quand même.
Et justement, ce secteur intérieur en France, Edwin, il a jamais été aussi fort.
Peut-être
encore meilleur, parce qu'on a la possibilité aujourd'hui de sélectionner Joël Embiid qui est français. Moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse ton avis là-dessus.
Mais est-ce qu'il sera vraiment meilleur?
Je sais pas, mais on rajoute quand même un joueur d'une dimension fantastique.
Ouais, mais la complémentarité, puisque Joël Embiid, je me doute que s'il vient jouer avec nous, il va pas jouer 20 minutes. Donc il va pas jouer 20 minutes et 20 minutes avec Rudy. Sachant que les deux, ils peuvent pas trop jouer ensemble. Parce que le spacing, il va être quand même compliqué.
Donc c'est Rudy qui va le plus souffrir de ça.
Donc, à part si tu décides de mettre un mec qui a fait tout son cursus dans les équipes de France et qui est quand même trois fois meilleur. Enfin, c'est loin d'être un peintre. C'est dans le top 5 des big men mondiaux. Tu dis non, vas-y, va t'asseoir, on prend un autre. Après, ça va être compliqué.
Donc toi, t'es pas chaud?
C'est pas que je suis pas chaud, c'est que sur tous les postes où on pouvait peut-être être aidé, sans manquer de respect à ceux qui sont là, c'est vrai que sur le poste 5, c'est pas là où on a besoin de plus de joueurs, tu vois ce que je veux dire? Je suis chaud, oui, parce que c'est clair que c'est un joueur d'une dimension incroyable. Après, je vais même pas rentrer dans la naturalisation parce que je connais pas sa relation avec la France à Joël Embiid et comment ça s'est fait, le pourquoi du comment.
Donc il a mangé une raclette en 2008, imagine.
Et il a tweeté sur le Tour de France. Mais d'ailleurs, en Espagne, il y a Lorenzo Brown qui se fait naturaliser. Est-ce que...
Ouais, bon, après, ça, c'est encore plus abusé. Enfin, voilà,
ça fait une vraie polémique en Espagne.
Ouais, surtout que nous, on a la crédibilité de dire que Joël Embiid. Il te place dans une autre stratosphère en termes de basket, en termes de niveau de joueur. C'est clair qu'il te propulse dans un candidat à être champion olympique éventuellement chez toi en 2024. Mais Lorenzo Brown,
C'est un bon joueur de Euroleague, mais c'est pas. Qu'on a vu en Espagne ces dernières années. Ouais.
Il va pas te gagner un titre parce que t'as en tout cas, je pense pas que Lorenzo Brown va être assez bon pour gagner un titre avec l'Espagne, ou en tout cas porter l'Espagne. Donc voilà, c'est vrai que par rapport aux joueurs qu'ils ont, par rapport à la forte identité nationale qu'ils ont, moi j'ai été très surpris. Qui naturalise Lorenzo Brown.
Ouais, ils ont peut-être paniqué que Ricky Rubio est toujours blessé et pas disponible.
On est peut-être dans un creux chez les Espagnols. Hein.
Ouais, on n'est jamais dans un creux avec l'Espagne, hein, je le dis, moi.
Oui, t'as plus de vécu que moi, donc je vais te croire.
J'aurais pensé peut-être qu'il naturalise au moins un Américain qui est passé par le championnat ou qui a un vécu dans le championnat espagnol ou je sais pas, qui a une attache particulière, tu vois. Là, c'est vrai que c'est. Enfin. C'est vraiment inattendu. C'était un peu comme Randolph avec la Slovénie.
Exactement.
Et notre ami André Blach, qu'on a cité tout à l'heure avec les Philippines. Merci beaucoup, Edwin. Ouais. C'était un plaisir de t'avoir. Et puis,
de rien, merci
on espère
beaucoup.
Te voir rapidement sur des parquets
moi
en
aussi.
Europe.
Bientôt, très
pour
bientôt.
Voir filocher, évidemment. Bon merci, courage, beaucoup,
merci beaucoup,
Edwin.
Merci beaucoup. Ciao, merci ciao. À vous.
Voilà, c'était sympa de parler un peu basket, Stephen.
Bien t'imagines. Sûr, ça fait du bien de parler d'un bon sport où la France brille et la France a la possibilité d'être championne d'Europe début septembre en Allemagne.
Allez, pour terminer cette intégrale sport, du cyclisme avec le Tour de France femmes et une course chez les hommes, une classique ce week-end, demain à vivre sur RMC, la classique Saint-Sébastien.
RMC, intégrale sport.
Arnaud Valadon.
De retour dans l'intégral sport et on va parler cyclisme dans un instant. On sort en direct de Saint-Sébastien avec Arnaud Souk qui va nous présenter la classique demain de Saint-Sébastien sans Jonas Vingegaard, toujours au Danemark, qui continue de fêter sa victoire sur le Tour, mais avec Tadej Pogacar. Mais toute cette semaine, on vous parle de ce Tour de France femmes. La sixième étape est arrivée aujourd'hui en Alsace à Rossheim avec la victoire au sprint de la maillot jaune Marianne Vos. Et demain, il y a ce bouquet final ce week-end avec les Vosges et deux étapes de montagne au programme. Pour nous en parler, le directeur de course de ce Tour de France femmes, Franck Peyre, qui est avec nous. Bonjour Franck.
Oui, bonjour à tous.
Ah, c'est vrai qu'on vit quand même une semaine intense qui devrait, et on est presque sûr, finir en apothéose samedi et dimanche avec cette arrivée à la super planche des belles filles. Mais est-ce que déjà, après ces six jours de course, vous êtes parti dimanche de Paris, on peut dire que l'engouement qu'il y a autour de ce Tour de France Femmes a déjà dépassé vos espérances?
Ah oui, complètement, on ne s'attendait pas du tout à ça. Le public sur le bord de la route, les sourires, c'est phénoménal. Il y a une ferveur qui est incroyable et dont on n'imaginait pas ça de cette manière. Et on est évidemment extrêmement agréablement surpris.
Et au-delà de la ferveur, vous pouvez en témoigner puisque vous intervenez aujourd'hui sur RMC, médiatiquement ça suit.
Et bien sûr, on voit en termes de journalistes accrédités sur l'événement, c'est exceptionnel, oui, effectivement, la couverture médiatique, elle est énorme.
Est-ce que, sur la pérennité de l'événement, évidemment qu'il n'y a pas eu une volonté de faire juste un coup pour cette année, mais voilà, là, il y a quand même eu suffisamment de garanties pour dire que, oui, on est sûr que cet événement va être véritablement pérenne et va toujours aussi prolonger finalement le plaisir que tous les fans de cyclisme ont eu avec le Tour de France messieurs, parce que comme vous intervenez la semaine juste après, sur la pérennité de ce Tour de France femmes aujourd'hui, on est assuré que ça va aller durer plusieurs années et peut-être plusieurs décennies.
Et ben effectivement, on s'aperçoit que le cyclisme féminin s'est développé très très rapidement ces dernières années. La conséquence, c'est qu'on a du sport, du haut niveau. Tout ce qui compte, c'est le sport. Et on voit là les athlètes qui sont à un niveau exceptionnel. Et c'est ce qui fait aussi que le public est au rendez-vous. On s'y trompe pas. Il y a du très haut niveau. Derrière, on s'aperçoit qu'au niveau des audiences, les téléspectateurs aussi sont présents. Et puis sur le parcours, vous avez pu constater également la présence du public. Donc tout ça, ça fait que on espère, oui, effectivement, qu'une nouvelle ère se crée et que demain on va continuer comme ça.
Est-ce que vous avez été surpris par le nombre de chutes? Alors on a interrogé les coureuses, il y a évidemment le facteur qu'elles n'ont pas forcément l'habitude d'évoluer dans un si gros peloton, aussi un peu de nervosité. Est-ce que vous avez été surpris par ces chutes souvent très importantes et très impressionnantes aussi?
Je crois que techniquement, il n'y a rien à dire. Elles sont au niveau des garçons en termes de dextérité. Et puis, comme on le voit sur certaines étapes, aussi bien chez les garçons, il y a des facteurs qui sont déterminants, comme le vent. C'était le cas lors de la deuxième étape entre Meaux et Provins. On a eu énormément de vent, donc ça crée de la nervosité. Et puis, on a vu que les chutes, elles s'étaient créées à des endroits qui n'étaient pas forcément techniques ni dangereux. C'est simplement le fait de cette nervosité, le fait d'avoir peur des changements de direction et d'avoir, effectivement, quand vous avez du vent et que vous changez de direction, c'est potentiellement un des cassures dans le peloton qui vont se créer. Donc, il faut être à l'avant, il faut se positionner à l'avant. Et puis, ça crée de la tension et de la nervosité. C'était le cas sur la deuxième étape. Hier, on a vu une chute massive au niveau du peloton. Mais sur un endroit, je dirais, où c'est un peu de l'inattention, ça a certainement dû se toucher un moment au niveau des roues, et puis ça a créé cette chute en cascade, sans grande blessée, mais malgré tout impressionnante, puisque la route était totalement barrée. Toutes les concurrentes, excepté Cécile Norsgaard, ont pu repartir. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Moi, je trouve par contre qu'elles sont extrêmement agiles, aussi bien comme chez les hommes. On l'a encore vu aujourd'hui lors de l'emballage final.
Ce week-end, il y a donc ces deux étapes de montagne dans les Vosges. On parle beaucoup de dimanche l'arrivée dans la super planche des Belles-Filles. En tant que directeur de course, est-ce qu'on est très impatient de voir ce que ça va donner? Parce que c'est la première fois que ça va grimper autant. On est concentré sur sa tâche parce qu'effectivement, c'est aussi le week-end et le bouquet final.
Non, évidemment, on reste concentré jusqu'au bout. Il reste encore deux étapes. C'est le week-end où on souhaite finir en apothéose. Effectivement, l'étape de demain, elle est brutale. On va attaquer le petit ballon, ensuite l'enchaînement avec le plat de Servacelle, et puis le grand ballon pour finir en haut. Une fois qu'on aura basculé, il restera 7 km pour finir au Markstein. Donc cette étape-là, elle est très dure. Il y a 3000 mètres de dénivelé dans les 90 derniers kilomètres. Et puis le lendemain, c'est arrivé en altitude à la super planche des Belles-Filles, comme on l'a vécu chez les hommes quelques semaines plus tôt. Donc c'est un final en apothéose. On en attend bien évidemment beaucoup. On espère beaucoup de monde sur le bord des routes également. Et puis du sport. Voilà, c'est ce qui fait. C'est ce qui va faire la différence.
Sans vouloir évidemment comparer, Franck, mais on vous a connu coureur cycliste, pistard aussi, avec des titres de champion du monde sur la piste, mais également avec la FDJ sur la route. Même pour vous, ça aurait été dur ce week-end, ce qu'elles vont devoir grimper, les filles.
Ah oui, ça aurait été trop dur pour moi, c'est sûr. c'est sûr. Je suis allé faire les chemins, j'ai pas été au-delà. Et déjà, les chemins, les petites ascensions juste avant sur l'étape 4, c'était déjà bien difficile pour moi, oui.
On rappelle champion du monde de l'américaine en 2002 notamment, Franck, en ce qui vous concerne. Sur le ressenti des coureuses et des femmes, elles sont toutes conquises, elles sont toutes heureuses, même surprises peut-être de voir que elles sont soutenues, il y a du monde sur le bord des routes.
Oui, c'est totalement ça, on est dans une ambiance du Tour. On retrouve les mots juillet, caravane, les images sublimées par France Télévisions. Il y a tout ça et ça fait que on est totalement dedans et elles le découvrent quelque part et forcément elles sont ravies. Je crois que ce matin au niveau du public c'était au rendez-vous encore à l'arrivée aujourd'hui, donc on est dans l'ambiance du Tour.
Merci beaucoup Franck Perc, directeur de course de ce Tour de France femme, et encore deux beaux jours à vivre aussi sur les antennes de RMC. Merci beaucoup Franck.
Merci à vous.
Et on continue par les vélos parce qu'il y a une autre course à vivre sur les antennes de RMC demain, la 41e classique de Saint-Sébastien. On retrouve sur place Arnaud Souk, l'homme qui était sur la moto pendant le Tour de France et qui est toujours sur le pont. Salut Arnaud.
Salut les amis, salut à toutes et à tous.
Présente-nous cette classique, un peu plus de 200 km au programme et un casting où il n'y a pas de Jonas Vingegaard qui continue de fêter son titre au Danemark.
Oui, il continue de fêter son titre au Danemark. Pour autant, lui n'est pas là, mais j'ai envie de dire, les autres sont là. On a quand même de très très beaux noms. Il faut juste replacer dans le contexte hein, cette course donc qui se déroule à Saint-Sébastien. On est quasiment à la frontière franco-espagnole du côté basque. Voilà, c'est une course qui, depuis qu'elle a été créée en 1981, a toujours attiré de grands noms. Hein. Quand on regarde le palmarès, on a notamment Miguel Indurain, on a Claudio Capucci, on a Philippe Gilbert, on a
Julien Alaphilippe
qui l'ont remporté, Adam Yates. Enfin bref, plein de grands coureurs, Alejandro Valverde également, l'Espagnol évidemment qui est un dieu vivant ici. Donc oui, c'est une course très importante qui certes se situe juste une semaine après le Tour de France, mais voilà, son profil attire, c'est un profil assez atypique on va dire, hein. C'est une des rares classiques que l'on peut destiner aux grimpeurs, puncheurs, voilà, donc elle plaît beaucoup, 225 km, on le rappelle, hein, c'est pas le niveau des monuments qui eux sont tous supérieurs à 250 km, mais quand même c'est une très belle classique, 225 km avec six difficultés, et puis on va être dans un contexte aussi basco-basque avec des montées typiques d'ici, c'est-à-dire des routes extrêmement étroites, avec des gros raidards. On a des passages notamment à quelques kilomètres de l'arrivée à 19%, donc ça risque de déménager un petit peu quand même.
Et il y aura l'un des grands animateurs de ce Tour de France, Tadej Pogacar. Tiens, on l'écoute puisque tu as pu recueillir ses propos avant cette classique. Tadej Pogacar à ton micro, Arnaud.
I'm good, I feel good and I'm really happy to be here.
Ça va, je vais bien, je me sens bien, je suis vraiment très content d'être ici. Je vais voir comment ça sera demain, j'espère que ça sera bien. Normalement les jambes devraient être bonnes après le Tour de France. Après c'est aussi dans la tête, mentalement je suis un peu fatigué.
If you have a good day or not, I hope for the best.
J'espère qu'on va faire une très belle course, on a une équipe très forte et j'aimerais bien être dans les options possibles jusqu'au bout de la course. Après on verra, je pense qu'on a de très belles cartes à faire valoir, j'espère qu'on aura de bonnes jambes demain.
We hope we all have strong legs tomorrow.
Voilà, Tadej Pogacar, donc le Slovène, un double vainqueur du Tour de France et deuxième cette année du Tour de France, qui sera, on va dire, le fer de lance de cette équipe UAE Team Emirates. Mais il a du beau monde avec lui, hein, parce que João Almeida sera là. On aura également Juan Ayuso, George Bennett ou encore Rui Costa. Bref, ce sera une des grandes équipes à battre. Arnaud, je ne sais pas si on a le temps en quelques mots de dresser le plateau, hein, le plateau des adversaires potentiels de Tadej Pogacar. Mais on aura quand même Remco Evenepoel, hein, qui l'a remporté en 2019, le Belge vainqueur de Liège-Bastogne-Liège il y a quelques semaines et qui lui se prépare en vue de son objectif de fin de saison qui est plutôt la Vuelta. Mais en tout cas lui sera là. On aura également Tao Gegenhardt, vainqueur du Tour d'Italie. On aura également côté français David Gaudu, on aura Guillaume Martin qui seront présents. Donc oui, du beau monde sera là demain et c'est tout sauf une victoire galvaudée, j'ai envie de dire, celui qui lèvera les bras ici en plein centre-ville.
Et David Gaudu, il a encore du jus un peu après sa quatrième place au Tour de France pour faire quelque chose.
Mais bien sûr. Non, mais après quand on en discute forcément, c'est sûr qu'une course de trois semaines, c'est pas anodin. Après,
oui.
Tadej Pogacar, j'ai discuté avec lui il y a quelques minutes, donc juste avant de venir vous voir, vous ici sur RMC, il me faisait remarquer à juste titre que l'an passé, le Tour de France était une semaine avant les Jeux Olympiques et que plusieurs des très grands acteurs du Tour de France se sont retrouvés une semaine plus tard sur le podium des Jeux Olympiques, notamment donc lui, Tadej Pogacar, notamment Wout van Aert, donc Primoz Roglic également sur le chrono. Donc voilà, c'est l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'on a eu une grosse épreuve, un gros bloc de trois semaines sur le Tour de France qu'on ne peut pas performant une semaine plus tard. C'est sûr qu'après, je pense qu'ils auront bien été contents quand même de se reposer quelques jours.
En fait, tu nous as fait ce petit laïus pour nous dire que tu parles avec Tadej Pogacar, en fait, Arnaud.
Pardon ?
Tu nous as fait ce petit laïus juste pour nous dire que tu avais parlé avec Tadej Pogacar, en fait.
Mais ce qui est une rareté, c'est puisque tu me poses la question, puisque tu me poses la question. Allez. De savoir s'ils ont les jambes. Non, mais c'est vraiment ce qu'il m'a dit. C'est vraiment ce qu'il m'a dit.
Et on suit ça demain avec toi, Arnaud, toute l'après-midi, samedi après-midi. Cette classique Saint-Sébastien. Merci beaucoup. Bonne soirée au Pays Basque. Merci beaucoup, Stéphane.
Merci, Arnaud.
Un petit peu de vacances.
Exactement. De retour le 20 août et la reprise du Super Moscato Show le 22 août.
Eh bien, profite bien, Stéphane, de c'est quoi, peut-être trois semaines.
Trois semaines, ouais. Tranquille.
Allez, et on te retrouve avec plaisir pour le Super Moscato Show et dans les émissions sur RMC. L'After arrive avec Nicolas Jamin. Salut Nico.
Salut Arnaud, salut Steve, salut à tous. L'After jusqu'à 22h comme tous les soirs au mois de juillet. On va parler de ce trophée des champions PSG Nantes. Également de l'AS Saint-Etienne. Est-ce que les Verts sont armés pour remonter en Ligue 1 directement? Un invité, Baptiste Santamaria, milieu de terrain du Stade Rennais. Et les prédictions surtout à partir de 21h de la saison en Ligue 1. Qui va être champion? Quel podium? Qui dans la charrette? La grosse cote? Le meilleur buteur? Reste avec nous, l'After arrive dans un instant.